Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilles d'Abribois.
23h41, ils sont là, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Dans les résultats marquants du jour, les gars, il fallait dire, donc on dise un mot de Lorient qui continue, ça marche en avant. L'effet Lebris annoncé en avant-première dans l'after par Thibault Leplat continue. Et maintenant, il y a toute la famille qui s'y met, puisque le but de la victoire est marqué par le neveu du coach. Magnifique but d'ailleurs, vous avez vu le contrôle, il se met le ballon, on rentre, pam, voilà. Où vont-ils s'arrêter, les gars, les Lorientais? Parce que c'est vrai que c'est assez dingue là. C'est plus une hype de l'été maintenant.
Autant Lens, tu t'y attendais, t'avais l'année dernière, tu savais un peu où ils allaient, tu connaissais Franck Haise. Là, Lebris, on en a entendu parler, mais bon, il fallait qu'on voit parce que c'est mieux de constater, même si on savait en théorie ce qu'il valait. C'est vrai, tu sais pas. Franchement, je sais pas. On avance match après match, ils gagnent. Aujourd'hui, en plus, ils font pas un super match. Ils gagnent quand même. Ça a beaucoup énervé les Lillois qui ont pété un câble à la fin. Les temps, notamment le président a dit qu'il a pas supporté l'attitude de ses joueurs.
Ouais.
Joueurs que j'ai trouvé plutôt meilleurs que les Lorientais en seconde période. Notamment quand ils ont été en supériorité numérique. Ils ont
plus que le jeu,
ils ont eu les occasions. C'est presque fou et anormal et d'une réussite insolente qu'ils réussissent à l'emporter avec ce but.
4 victoires d'affilée, là.
Du neveu, là, à 2 minutes de la fin.
5 victoires d'affilée.
C'est impossible de savoir.
Ça monte.
Jusqu'où peut aller cette équipe. Là, pour le coup, est-ce qu'il faut mettre en avant le travail qui est fait ou s'inquiéter du niveau des autres en Ligue 1? Est-ce que les Rennes, Monaco, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont combler le trou et revenir sur Lorient? Mais Lorient, cette année, là, à ce rythme-là, moi, je veux bien qu'on s'écroule dans une saison. Mais là, tu te dis que ça va forcément faire 5 ou 6. Hein. Ça va faire 5 ou 6 cette année, là.
C'est un peu tôt pour le dire, mais enfin bon.
Je sais pas, il faudrait que d'un coup, il s'écroule et qu'il n'y ait plus rien. C'est-à-dire que toutes les valeurs et tout ce qui est mis en place ne fonctionne plus. Je sais pas.
C'est un schéma assez comparable en soi, d'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le collectif, et peut-être même après sur qui finit les actions, parce que t'as Mofi qui est mieux cette année, mais t'as pas non plus, tu vois, d'attaquant ultra emblématique, mais t'as un collectif là pareil incroyable. Ce qui s'est passé quand même cet après-midi, moi, ce que j'ai adoré dans ce match, si Lille le perd, c'est aussi parce que Fonseca, à un moment donné, à 11 contre 10, décide de renforcer son équilibre vers l'offensive pour l'emporter. Et que Lebris en profite, parce qu'en gros, voilà, il y a un tout petit déséquilibre qui peut se créer, et ils en profitent pour contrer, entre guillemets, et pour ça. Mais ils le font aussi parce que Fonseca a pris un peu tous les risques. Donc moi, je serais pas dans la ligne de l'étang en disant, les joueurs ont pas fait ce qu'il fallait. Moi, je trouve que Lille a pas été si mauvais, et je trouve qu'effectivement, Fonseca a voulu gagner le match, qui était la moindre des choses en ce qu'on dise, mais il a pris aussi le risque, entre guillemets, de le perdre, parce que, Lorient, toute sortie de balle peut générer du danger. On essaie de relancer toujours proprement, donc il se passe toujours quelque chose. Il y a beaucoup de dédoublements, et là j'en reviens à ce que je disais sur Lens. On est sur ce foot où ça court beaucoup, on se propose énormément, et où un arrière comme Lebris, le neveu en question, oui, arrive et fait ce dribble long, une sorte de double contact pour aller marquer. Voilà, mais j'ai bien aimé aussi ce qui s'est passé avec les choix de Fonseca. Et après, le travail de Lebris, c'est une chose. Il y a un collectif incroyable. Moi, je les ai vus pour leur premier match à Rennes. C'est assez emblématique parce que Lebris était entraîneur à Rennes. Et c'est vrai que déjà, tout de suite, c'est pour ça que c'est aussi la rapidité avec laquelle ces gars-là impriment ce qu'ils veulent faire. Il y avait déjà, dans les sorties de balles, dans la volonté de jeu, il y avait déjà un peu tous les ingrédients qu'on retrouve aujourd'hui, là.
Alors, il y a une autre équipe qui est très très bien, là, depuis quelques temps maintenant. Très très bien. Oui, en Ligue 1 en tout cas, parce qu'ils ont perdu en Coupe d'Europe, c'est Monaco. Parce que Monaco, là, c'est 3 victoires d'affilée en Ligue 1. Bon, il y a eu le couac contre Ferencváros en Europa League. Mais là, voilà, en Ligue 1, c'est pas mal. Et là, on a Raphaël au 32-16, qui est avec nous, supporter de l'ASM. Salut Raphaël.
Salut les gars.
Salut.
Réveil de Ben Yedder, Raphaël.
Réveil, c'est le cas de le dire. On est content de pouvoir le retrouver enfin. Peut-être le début de la saison pour lui, enfin.
Exactement. Et tu voulais parler un peu du schéma tactique, là?
Ouais, je voulais parler du schéma tactique parce que j'étais content dans l'ensemble du résultat, forcément, même si l'adversaire, je pense, nous a bien aidé aussi. Mais j'ai trouvé que, je trouve au final qu'on est beaucoup mieux à deux attaquants. Mbolo, pour moi, il y a, malgré le fait qu'il joue bien, il a quand même plus un profil de judoka que de footballeur, et donc ça lui va mieux de jouer à deux attaquants, je trouve, de jouer un rôle de pivot. ça aide aussi Ben Yedder. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment plus intéressant l'animation offensive à ce niveau-là. Et bon, la défense, je sais que c'est pas notre point fort, mais à mon avis, ça peut le faire contre des équipes comme ça. Une défense à 4, ça peut le faire avec le milieu qu'on a, Fofana, Camara. Je pense que ça commence à trouver ses marques.
Les gars, vous en dites quoi de cette bonne passe monégasque en Ligue 1?
Là, c'est ce que disait Daniel aussi, c'est-à-dire que là, t'as vraiment ce qui est un peu terrible aussi. C'est vraiment la différence, comme tu dis, regarde, dans cet enchaînement de résultats, faire avec Varos et le reste. T'as une équipe qui a vraiment un effectif, je dirais pour la Ligue 1, dingue. C'est-à-dire que c'est une équipe qui doit, elle, être absolument dans les roues du Paris Saint-Germain, qui devrait être comme l'OM, là, au classement. Mais qui n'y arrive quasiment pas en Europe. Et qui devrait peut-être y arriver.
Il devrait y arriver.
Ils ont un effectif pour la Ligue 1
cadeau. Remonter. Qui va se situer autour de la troisième place assez vite. La seule chose un peu folle dans cette équipe, c'est ce qu'elle fait en Coupe d'Europe. C'est cette défaite contre Ferencváros. Bon, ils ont encore le temps.
Oui, ils avaient gagné le premier match. Hein.
Voilà, ils ont encore le temps de s'améliorer et de sortir de la poule. Bon, l'année dernière, ça les a pas empêchés de perdre contre Braga et derrière de finir troisième. Donc, je crois que sur la longueur en championnat avec cet effectif, ils devraient finir très haut. Mais ponctuellement, ça reste une équipe qui peut perdre contre un peu n'importe qui si tu les bouscules très fort, si tu leur mets un peu le feu, comme par exemple en Coupe d'Europe, sur un one-shot comme ça, ils peuvent se prendre une banane.
Comme Lens.
À trop se la raconter. Oui, s'ils tombent contre Lens, c'est sûr qu'ils vont se faire bousculer. Mais même sur un match comme ça, l'équipe en face le joue à fond, les bouscule, parce que c'est des mecs qui s'endorment assez vite, qui sont un peu trop dans le confort, un peu trop sûrs qu'ils sont plus forts. Il y a pas, c'est comme d'hab à Monaco, il y a pas la grosse pression autour, ils sont peinards. On a regardé le match cet après-midi, très franchement, ça a été vite ennuyeux parce que bon bah en plus ils ont marqué vite et Nantes était pas dans le coup. Donc il y a en très peu de temps, il y a eu 2-0 puis 3-0, donc c'était bouclé. Le stade était vide, on s'est vite fait chier, il y avait pas grand-chose. Voilà, mais on sait très bien que sur la durée et sur la longueur du championnat, ça va être suffisant pour arriver.
Tu vois le 11 de Monaco, Nubel, Vanderson, Disasi, Badiachil, Caio Henrique, Crépin Diata, Fofana, Camara, Golovin, Mbolo, Ben Yedder, et que tu fais rentrer Folland, Minamino, Maripane en Ligue 1, excuse-moi, là t'es dans le top hors PSG, t'es au-dessus, à mon avis t'es au-dessus de l'effectif de l'OM potentiellement.
Hein. Ah. Bon, à suivre, en tout cas ils jouent contre Trabzonspor, ils reçoivent Trabzonspor en Coupe d'Europe cette semaine. Merci Raphaël.
Merci à vous.
Salut, bonne soirée. Un mot de Toulouse, les gars. Bon, là, il y a eu des incidents avec les supporters de Montpellier cet après-midi, là. Alors, je ne sais pas s'il y a un passif, à vrai dire, là, entre Toulousains et Montpellierains.
Le derby de l'Occitanie,
voilà. Ah bon, c'est pas un derby.
Non, c'est tellement éloigné, mais c'est la même région.
Le derby de Montpellier, c'est Nîmes. C'est pas.
Ouais, bien sûr.
FL est là, bonsoir.
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 Bonsoir l'équipe.
Supporter de Toulouse. T'étais au stade?
Bien sûr.
Bon, bah t'as passé une belle après-midi là. C'était un match un peu fou.
Oui, ça fait plaisir, enfin du spectacle.
Bon, sauf quand il y a les gaz lacrymogènes qui font arrêter le match, mais bon.
ouais, mais je préfère parler terrain, moi.
Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Lorient parce que c'est le bon un peu la hype du moment là. Mais Toulouse, mine de rien, a fait son parcours. Bon, Toulouse est 12e, alors c'est pas extraordinaire en termes de classement non plus. Mais bon, il y a comme ça une espèce de sûreté malgré tout qui se dégage de l'équipe, non?
Ouais. Bon après c'était quand même un peu compliqué. On prenait beaucoup de buts et on marquait pas beaucoup. Là, ça fait plaisir de marquer autant, quoi. Il y avait des beaux buts en plus. Et puis quel joueur, Vandenboomen, quelle passe. Je sais pas si vous l'avez vu.
Ouais, ça fait.
Vandenboomen, qui était censé partir.
Donc hein. À DB, à Toulouse, ouais. On avait DB. Hein.
Moi, bah, disons que c'est un peu le cas Fofana à Lens, Vandenboomen. C'est-à-dire que l'équipe, elle était très dépendante de Vandenboomen en statistique, elle l'est toujours.
Ouais.
Et c'est vrai que le fait qu'il soit resté change un peu la donne. Après, le jeu, moi j'avais un doute en début de saison. Sur le passage de Ligue 2 en Ligue 1, parce que c'est une équipe qui dominait, qui était très très forte en Ligue 2, justement dans sa capacité à faire du jeu. Et je savais pas si elle allait réussir à maintenir ça. Et en fait, Montagnier veut maintenir ça, ce qui explique qu'il gagne, il perd. Là, il est 12e seulement, c'est pas comme Lorient. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Tu montes de Ligue 2 en Ligue 1, t'as pas forcément tous les joueurs pour être à la hauteur de ce jeu ambitieux. Mais en tout cas, ça joue. Et tu vois, ils sont menés aujourd'hui, ils reviennent, ils jouent et ils marquent beaucoup de buts.
Voilà. Bon ben voilà pour Toulouse, FL, merci de ton petit coup de fil. J'ai pas mal d'actu du jour à partager les gars après la Ligue 1. On reparlera Ligue 1 demain hein, bien sûr. Enfin il y a des sujets qui sont là connexes à la Ligue 1. Ah oui, alors, j'aimerais quand même démarrer par cette histoire de stade là. Enfin d'écran géant. Parce que les choses se bousculent un peu ce soir.
C'est une vraie décision politique là, attention là.
Donc le maire de Bordeaux. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic.
Ça veut dire qu'en décembre, à Bordeaux, tu n'auras ni sapin de Noël, ni écran géant pour regarder le foot.
Un écran géant avec le froid qu'il fait à ce moment-là, ouais.
Mais c'est pour ça. Alors, c'est le froid. Alors, c'est Pierre Urmic, hein, tout à l'heure, dans Bartoli Time, qui était là et qui a dit qu'il n'y aurait pas d'écran géant à Bordeaux. Il a même ajouté à titre personnel, mon poste de télévision ne sera pas allumé un quart de seconde pour regarder cette manifestation extravagante.
On attend forcément Grenoble aussi, non?
À aucun moment, mon poste ne sera allumé pour regarder ce genre de pitrerie, a dit Urmic.
On attend Grenoble, c'est tombé.
Ça devrait tomber.
Strasbourg, ça va tomber.
C'est tombé déjà.
C'est tombé Strasbourg. Ben c'est normal. Tombé. C'est normal.
Les villes écolo, c'est vrai, là,
c'est normal. C'est normal. C'est normal.
Et Lille, c'est tombé ce soir.
C'est normal.
Martin Lebris a dit, il y aura pas d'écran géant. Alors, il y a quand même un truc un peu démagogue dans tout ça, parce que un écran géant fin novembre, début décembre, quand il fait 0 degré. Oui. Pas convaincu que c'est hyper rentable.
Non, mais
qu'il y ait beaucoup de monde qui y aille.
Tu peux l'envisager éventuellement pour
la
France.
Donc en fait, bon. Peut-être que la vraie raison, c'est de se dire, on va pas monter les écrans géants pour personne.
La décision, c'est de faire croire qu'on prend des décisions politiques.
Ça fait bien
fortes.
De dire que c'est pour l'écologie voilà. ou pour les droits de l'homme.
Voilà, ça donne peut-être. L'impression qu'on prend des décisions vraiment très très importantes et très très fortes quand on est dans ce camp-là politique, vraiment. Très important.
Bah, attendons qu'une ville de droite, Daniel, le décide. Ça peut arriver.
Ça voudra pas dire qu'ils sont plus intelligents.
Alors, j'aimerais maintenant parler de Florentino Pérez, parce que Florentino Pérez a prononcé aujourd'hui un discours important où il a parlé de la Super League. C'était une assemblée du Real. Alors, il y a deux sujets. Il a mis un petit tir au PSG, mais sur la Super League, il dit. En fait, il a comparé les confrontations entre grands clubs européens aux confrontations au tennis. Nadal, Federer, Djokovic et tout. Et donc, il dit, Nadal, Djokovic et Federer, ils sont chacun joués une quarantaine de fois. Ben, nous, par exemple, contre Liverpool, on les a joués 9 fois en 67 ans. Chelsea, 4 fois dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Et les deux dernières fois, c'est les deux dernières années. Donc, il faut plus de ces matchs-là, dit Florentino Pérez. C'est un argument qu'il a développé aujourd'hui. Il dit, la Super League est un bon moyen d'éviter de voir le foot perdre de suprématie face aux autres sports, dit-il. Alors, l'argument des Federer Nadal ou des Djoko machin, bon, on pourrait le retourner en lui disant ouais, mais parfois on en a marre de voir tout le temps Djoko Nadal, j'en sais rien.
Honnêtement, Gilbert, moi je m'attendais pas à ce que tu parles de ça là, ça mérite l'analyse de Florentino Pérez et le discours qui est
aujourd'hui
à l'Assemblée Générale du club mérite un peu plus qu'aux 3 minutes en fin d'émission parce que c'est du très haut niveau. On est là face à un président qui est d'une autre dimension que ceux qu'on a chez nous quand même. Il y a de vrais arguments, même quand il fait cette analogie avec le tennis, on peut être pour ou contre, mais il y a de vrais questionnements sur ce qu'est en train de devenir le football, sur les réformes que prépare l'UEFA. Il défend certes la vision de la Super League sans donner d'indication sur la réelle version qu'il veut. Puisqu'il y a eu une marge énorme entre la Ligue fermée d'il y a 2 ans et les évolutions aujourd'hui qui ne seraient plus du tout ça. Néanmoins, il y a des arguments qui s'entendent et qui sont incontestables dans ce qu'il dit. On peut pas, comme ça, développer ça là, vite fait, tu vois. Il faut qu'on prenne le temps d'en débattre un soir.
Top, Jean-Michel Aulas vient de réagir. Twitter, excusez-moi. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d'équipe ni des options du staff. Il faut travailler et gagner. Enfin, vendredi, l'OL est 7e et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts, dit Jean-Michel Aulas. Voilà. Il y a un bashing lyonnais. Donc.
Un tweet pour gagner du temps.
Voilà.
Gagner un peu de temps. Juste un mot sur Florentino Pérez. Il y a quand même un truc. Il faut tout entendre, il faut tout analyser, mais. Comparer les sports, moi je trouve que c'est déjà un truc très particulier justement.
Oui, moi
ce qui fait
trop.
La spécificité du foot fait justement que ça ressemble, c'est comparer l'histoire du tennis et la culture du tennis et de ces rencontres fréquentes effectivement et récurrentes entre des champions. Ben oui, très bien, mais c'est pas l'histoire du foot. Ça veut pas dire qu'on doit pas regarder ce qu'il faut faire pour améliorer l'attractivité du foot. Mais moi le fait que les chiffres qui ne m'ont pas choqué, les chiffres qu'il a donné sur le nombre de rencontres entre Liverpool et le Real, non, ça ne me choque pas. C'est justement cette rareté là qu'on recherche. Après, ça c'est une partie du débat. Après, on pourra en reparler effectivement sur les différentes formules qu'il préconise ou pas. Mais en tout cas sur ça, pour moi c'est pas un argument le fait de prendre
des risques comme ça. Il y en a beaucoup
d'autres. Oui, il y a d'autres choses. Bon alors, il reste 1:30, donc on n'a pas le temps d'aller plus loin. Je vous raconte juste qu'il a mis un petit tir à Nasser Al-Khelaifi en disant le président de l'ECA, il ne citait pas Al-Khelaifi qui est président de l'ECA, a dit que Madrid a peur de la compétition. Il faut quand même rappeler à ce président...
Il a peur de la concurrence. Bah, déjà, quelle sortie de Nasser Al-Khelaifi. Mais comment être plus grotesque que ça? Mais comment on peut être aussi grotesque?
Donc Pérez dit, il faut rappeler au président de l'ECA qui est le Real Madrid. Nous sommes les rois d'Europe, dit
Florentino Pérez. Comment Nasser Al-Khelaifi peut dire ça? Mon Dieu.
Allez, deux petites infos pour conclure. Cristiano Ronaldo n'a pas joué le derby de Manchester où United s'est fait éclater par City 6-3.
Ah oui, j'ai regardé ça cet après-midi.
Et Ten Hag dit...
Les absents n'ont pas toujours tort.
Alors non, mais justement, Ten Hag dit, mais pourquoi... Ouais. Alors, on lui demande pourquoi vous ne l'avez pas fait rentrer. Il dit, écoutez, par respect pour son immense carrière...
Qu'il soit humilié devant tout le monde.
En gros, voilà. C'est pas mal comme explication.
C'est bon, Ten Hag.
Et puis, petite info, foot africain, vous savez que la CAF a retiré l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée, qui n'est pas prête.
Et l'Algérie était candidate.
L'Algérie est candidat.
Ouais, j'ai vu ça.
Vraisemblablement, le Maroc, le Nigeria et le Sénégal pourraient également être candidats pour recevoir cette
chacun chez soi.
Chacun chez soi.
Ah, d'accord, il n'y a pas d'alliance entre les pays.
Oui, ça ne se fait plus trop en Afrique, les alliances.
D'accord. Entre Maroc et Algérie, ça va être un peu compliqué en ce moment.
Oui, là, c'est un peu chaud.
Voilà.
Effectivement.
Il y a des petits soucis.
Demain, l'after sera là à 20h, bien sûr, avec les drôles de dames, et puis la Ligue 1 à 22h, et puis la Coupe d'Europe cette semaine. On va se régaler. Bonne nuit à tous, et à demain soir, 20h, et puis le RMC Poker Show dans quelques instants, avec Moundir qui a brillé de mille feux, paraît-il, à Bratislava.
Grand RMC Poker Show, on se retrouve dans 5 minutes. Moundir, grosse performance, la plus belle de sa carrière. Quand même, il s'est retrouvé à la table avec des pros de très haut niveau. Il a fait 4e d'un gros tournoi.
Très bien, c'est tout de suite sur RMC.
Il est en transe, je vous le dis tout de suite, il est en transe.
RMC, l'after foot.